Bonjour et bienvenue dans cette heure du documentaire sur France Culture qui associe sur les docs et chaque lundi la fabrique de l'histoire. Nous sommes cette semaine sur la trace de rêveurs. Jeune homme, notre héros d'aujourd'hui s'est promené dans les oliveraies des Alpilles et la langue qui l'a bercé était le provençal. On doit à un surveillant du pensionnat Dupuis de l'avoir conforté dans l'écriture de vers en provençal. Si je vous dis qu'on lui doit Mireille, vous aurez identifié Frédéric Mistral. On lui doit aussi un gigantesque dictionnaire de provençal, agrémenté de chansons ou proverbes, unifiant tous les dialectes de la langue d'oc moderne que tous les amateurs de patois du centre et sud de la France cultivent encore. Frédéric Mistral reçut le prix Nobel en 1904. Avant cela, il avait fondé en 1854 le Félibrige pour rénover la littérature d'oc et en faire une littérature au rang de la haute littérature. Après lui, Marcel Delpastre releva au XXe siècle ce défi. Nous voici, pour une heure, bercés par la langue des troubadours.
Alors, il y a un mot que j'aime bien, enfin, qui est intraduisible peut-être en français, effectivement, c'est le mot préfat. Préfat, c'est l'équivalent de préfet, vous ne le dites peut-être pas. Un préfet, c'est un terme technique, c'est le prix qui est fait, enfin, le prix qui est décidé en quelque sorte et qui est proposé. Alors, le mot existe en occitan, préfa ou préfatch, et en occitan, il a surtout le sens de travail, de labeur, et Mistral l'emploie d'ailleurs particulièrement pour parler du dictionnaire. Voilà. Oui, voilà, forfait, tâche, labeur. En particulier, lorsqu'il parle de son dictionnaire, il dit que ce fut mon préfat pendant toute ma vie, ce fut mon labeur. Pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important, presque un terme un peu sacré.
Le trésor du Félibrige, le dictionnaire des divers dialectes de la langue d'oc moderne de Frédéric Mistral.
Premièrement, il n'était pas fier. Il fréquentait tout le monde. Il allait tous les jours faire sa partie au café. Il jouait aux cartes avec le premier venu, n'importe quoi. Il n'avait pas de préférence. Et par exemple, alors, quand on le rencontrait, qu'il faisait sa promenade quotidienne, vous lui disiez bonjour, il ne vous répondait pas. Alors, il était distrait, il était absorbé par une pensée fixe. Voilà, c'était un poète. À l'époque, c'était un des rares savants qu'il y avait dans les petits villages. Il était bachelier. Des bacheliers à l'époque où ça ne courait pas les rues. Hein.
Poète et écrivain provençal, issu de la petite bourgeoisie rurale, Frédéric Mistral se lance dans un travail de bénédictin pour mettre en œuvre un grand dictionnaire bilingue provençal-français. Considéré, aujourd'hui encore, comme un outil indispensable, le premier volume paraît en 1878 et le second en 1886. Cet ouvrage de référence contient tous les mots usités dans le Midi de la France, avec leur signification française, leur acceptation propre et au figuré, et un grand nombre d'exemples et de citations d'auteurs. On y trouve aussi les variétés dialectales de chacun des mots, accompagnées de leurs synonymes, la conjugaison de beaucoup de verbes, certaines expressions techniques concernant les métiers de l'agriculture et de la marine en particulier, la nomenclature géographique des villes, des villages et des quartiers, des rivières et des montagnes du Midi, les noms propres et les noms de familles méridionaux, une collection exhaustive de proverbes, dictons, énigmes, ainsi que des explications sur les coutumes, les usages et les institutions. Enfin, nombre de célébrités, ouvrages et événements des provinces méridionales sont présentés à l'aide de notices biographiques et historiques. La publication de ce dictionnaire appartient en réalité à un projet beaucoup plus vaste de réhabilitation de la langue et de la culture d'oc dans un pays où l'unité constitue une valeur fondatrice. À la fin du XIXe siècle, seules les classes populaires des campagnes et des villes parlent encore l'occitan de manière quotidienne. Frédéric Mistral, à travers le mouvement qu'il fonde en 1854, le Félibrige, a donc pour ambition de débarrasser la langue occitane de ses impuretés, rénover la littérature d'oc pour en faire une littérature à part entière, à destination des élites cultivées. Il élabore également, au niveau de l'écriture, une norme cohérente.
J'ai envie de dire un peu comme je ne sais plus qui, à propos de Victor Hugo, le plus grand poète français, hélas, c'est le meilleur dictionnaire occitan, je dirais hélas. Mais hélas, pas à cause de Mistral, qui a fait un travail remarquable, mais parce qu'il a quand même plus de 100 ans et il est toujours le meilleur. Et donc, c'est un peu inquiétant sur la situation de la lexicographie occitane.
Patrick Sauzet, linguiste.
Patrick Sauzet, linguiste.
Mais cela dit, c'est un excellent dictionnaire, pour son temps surtout, et qui est encore un outil de travail effectivement indispensable. Moi-même, le mien est dans un état déplorable parce que je m'en sers tous les jours. Avoir un dictionnaire riche et de bons outils en termes de dictionnaire de lexicographie, ça met en jeu le statut de la langue. Et Mistral a fait cette œuvre tout seul, c'est un poète, il a écrit un dictionnaire, il a fait un travail de linguiste, mais Mistral a fait clairement un dictionnaire général de la langue d'oc. Il décrit, il a des exemples, des parlers, des formes qui vont de Menton jusqu'à Biarritz et au nord, jusque dans de la Creuse, jusqu'aux Pyrénées. Donc c'est clairement tout l'espace occitan qui est pris en compte.
Alors c'est le plus gros, c'est pas le plus ancien dans l'histoire des dictionnaires occitans, mais disons c'est peut-être le plus prestigieux, dans la mesure où il est l'œuvre de Frédéric Mistral, prix Nobel 1904, etc.
Philippe Martel, historien.
Philippe Martel, historien.
Alors autour, il y a un certain nombre de choses. Il y a d'abord le digest du Trésor du Félibrige, qui a été fait par un moine prémontré qui s'appelait Xavier de Fourvière, à la fin du XIXe siècle, alors qui est en fait le résumé du Trésor du Félibrige, ça s'appelle le Petit Trésor, le Petit Trésor. Et son avantage et son intérêt, c'est que c'est la première fois qu'on ajoute un lexique inverse français-occitan. Ce qui permet donc aux débutants de découvrir le mot occitan correspondant au français. Alors ensuite, on a un volume de quelque chose dont le titre n'est pas occitan du tout, ça s'appelle le Provençalisches Supplement Wörterbuch de Émile Lévy, ça a été publié en 1907, c'est un dictionnaire de l'ancienne langue occitane, celle des troubadours. Alors supplement parce qu'il a travaillé en supplément au premier dictionnaire de la langue des troubadours qui avait été fait au début du XIXe siècle, François Renoir. Alors il y a 8 volumes, et ce qui est intéressant, c'est que Mistral y est cité assez régulièrement. Alors ensuite, Louis Alibert, c'est le réformateur de la graphie de l'occitan, c'est l'auteur d'une grande grammaire de l'occitan publiée dans les années 30. Alors là, par rapport à Mistral et à Honora, on est déjà tout de suite dans une autre problématique qui nous renvoie tout de suite au problème éternel de l'occitan. L'occitan, c'est pas un singulier, c'est un pluriel.
Le dictionnaire de Mistral, le Trésor du Félibrige, c'est dictionnaire
provençal-français.
Provençal-français.
Avec ensuite tout un sous-titre embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne et contenant, alors ensuite, il y en a une page. Du Limousin, de l'Alpin, de l'Auvergnat, du Languedocien dans toutes ses variantes et du Provençal dans toutes ses variantes. En gros, il essaye de recouvrir l'ensemble de l'espace occitan. Alors, on m'excusera de ne pas avoir l'ensemble des dictionnaires occitans depuis le XVIIe siècle. Le premier, je crois que c'est un certain Doujat dans la région de Toulouse jusqu'à nos jours, parce que ça finit par tenir beaucoup de place, les dictionnaires.
Dès le début du XVIIIe siècle, il y a toute une floraison de dictionnaires et dans les différentes régions de Languedoc, en Provence, mais en Languedoc, en Gascogne également, de dictionnaires qui sont faits souvent par des ecclésiastiques pour apprendre aux Français leur langue.
Jean-Claude Bouvier, linguiste dialectologue.
Jean-Claude Bouvier, linguiste dialectologue.
Alors c'est des dictionnaires provençal-français ou bien gascon-français pour que les gens qui connaissaient mal le français puissent exactement savoir quels sont les équivalents français des mots d'oc qu'ils prononçaient. Alors, bon, là, il y en a plusieurs. À Aix, il y en a un du Père Pélas, de 1723, un de Puget, qui est resté manuscrit. Dans le Languedoc, il y a Boissier de Sauvage, on vous en a peut-être parlé, dans le dictionnaire de... C'est un père, là encore, en 1756, pour le languedocien. Et puis, alors, il y a des dictionnaires ou des glossaires dont le titre est encore plus explicite. C'est par exemple en Gascogne, un certain Dégrouet, en 1776, écrit un ouvrage qui s'appelle Les Gasconismes corrigés. Voilà, donc ça, c'est vraiment les débuts.
Dans la préface, Jean-Claude Bouvier, vous avez.
C'est des bulletins de souscription.
Des bulletins de souscription, oui.
Voilà. Et c'est Mistral lui-même qui les a lancés, il a tout fait. Il a écrit les articles du dictionnaire, il s'est occupé lui-même de chercher un imprimeur, il a utilisé même son beau-père pour servir d'intermédiaire auprès d'un éditeur parisien, Honoré Champion, avec lequel il a lancé l'édition. Donc dans la page de titre, c'est écrit même Champion et Aix-en-Provence, donc Paris et Aix-en-Provence. Donc il a fait tout ce travail de technicien, je dirais, de l'édition, qui a été assez considérable. C'est vraiment l'artisan du dictionnaire, on peut dire.
Donc Mistral a utilisé ses prédécesseurs comme font tous les lexicographes. J'imagine que...
Patrick Sauzet.
Alain Ray. ils renouvellent le Robert et ils le réécrivent tous les ans. Ils ajoutent des entrées. Ils ne refont pas à zéro le travail. Et tout ça, ça se suit. Mais il les a enrichis par un travail personnel, par une cohérence qu'il a apportée. Ce qu'il a de plus intéressant, c'est que son dictionnaire est rempli de citations d'auteurs directs. Donc les mots sont en contexte par rapport à des listes sèches de mots. C'est ça qui fait la grande différence du dictionnaire de Mistral, c'est qu'il est rempli de citations et de références à des auteurs. Encore un autre point important dans la cohérence, c'est que Mistral articule son travail de description de la langue sur l'usage. Mistral parle, Mistral écrit occitan. Il a un point de vue d'usager, et pas seulement un point de vue de linguiste qui regarde ça de loin comme une matière étrangère. Donc Mistral, lui, décrit du dedans, parce qu'il parle la langue, il l'écrit. Bon. Et donc, il pose une langue de référence, qui est la forme rhodanienne, et donc il y a une logique, du coup, technique du dictionnaire qui est liée au fait que Mistral est un locuteur et un scripteur de la langue, quoi.
Autre intérêt quand même du trésor du Félibrige, c'est que c'est en même temps une encyclopédie de la culture d'oc. Hein,
Felipe Marteu.
Il y a de la tradition, il y a de l'histoire, il y a des proverbes, il y a des citations de chansons populaires, parce que Mistral était collecteur aussi. Hein. Dès sa jeunesse, il collecte des mots, il collecte des chansons, même s'il n'a jamais fait de recueil de chansons, mais de temps en temps, on en trouve la trace dans ses propres œuvres. Il collecte des contes. C'est fait pour justement toucher le peuple. Ça débouchera sur son grand travail muséographique du Musée Henri Latin, qui est un petit peu sa dernière œuvre, et en même temps, son œuvre crépusculaire. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, là, c'est plus la langue vivante, c'est plus les mots, c'est plus la parole qui circule, c'est des objets, et des objets morts, finalement, hein, y compris son propre berceau. Bon. Mais c'est un collecteur. Et donc, dans son trésor du Félibrige, il va verser le produit de ses collectages de proverbes, de morceaux de chansons. Et c'est une des fonctions aussi du trésor du Félibrige, le manuel que l'homme d'oc n'a pas. Alors, lingo, limousin, marseillais, dauphinois, lingo, béarnais, gascon, liengo, auvergnat, lingue, béarnais, lingue, catalan, lingue, espagnol, lingua, italien, portugais, latin, lingua, langue, idiome, jactance, voire platine, presqu'île, glaïeul des moissons, voire glaudiau. Quelques citations. Vive donc notre lingo doc, ame sous bouche d'ore des phoques. Achille Mire, poète de l'Aude. Quelques proverbes. La langue n'a d'os, mais n'en fait rompre. La langue n'a pas d'os, mais elle en fait casser. Quand mord sa langue, pense mal. Qui mord sa langue, pense mal. Langue des bestes n'a jamais menti. Langue de bête n'a jamais menti. Langue humide et pécau préservent des forces mal. Langue humide et pied chaud préservent de beaucoup de mal.
L'Occitan, c'est 33 départements français, c'est tous les départements du sud de la Loire, avec, bien entendu, divers dialectes.
Mireille Combes, enseignante d'Occitan.
Le provençal en est un, vous avez le languedocien, vous avez le gascon, le limousin, mais en réalité, c'est une unique langue avec plusieurs dialectes.
Oui, voilà, on
et même des sous-dialectes.
On pourra apporter comme précision à ce que Mireille vient de dire, c'est que l'Occitan occupe
Rémi
Salamou, un territoire qui couvre
formateur en langue d'oc et conteur provençal,
français, mais déborde dans les vallées piémontaises, les vallées qu'on appelle les vallées occitanes d'Italie, et aussi dans la Val d'Aran en Espagne, hein, puisque on y parle là-bas aussi l'occitan. Et ensuite, historiquement, c'est vrai que le berceau de la langue d'oc, c'est l'évolution du latin, bon, qui a donné cette langue romane. Et longtemps, le catalan et l'occitan ont été assez indifférenciés. C'est pour ça qu'on les associe comme des langues vraiment cousines. Alors ce qui a fait la diffusion de la langue, effectivement, c'est du temps des troubadours, hein, puisque les troubadours n'étaient pas des petits saltimbanques qui allaient de château en château pour amuser les sauteries des seigneurs, mais c'était souvent eux-mêmes des seigneurs, quoi. Et ils avaient autour d'eux des petites cours culturelles, et c'est comme ça que la langue d'oc s'est répandue. Bon, elle s'est répandue même au-delà des frontières françaises, hein, puisque par des alliances, par exemple, Richard Cœur de Lion parlait aussi occitan, l'occitan est aussi parti en Allemagne. Bon, voilà, et je crois que c'est ce qui a fait la diffusion, qui après a été interrompue par l'édit de Villers-Cotterêts à la Renaissance, hein, qui, sous prétexte d'éliminer le latin des textes officiels, a en effet porté un coup très dur à la langue d'oc, puisque jusqu'à cette époque-là, tous les actes notariés, les actes officiels étaient notés et écrits en langue d'oc. Et à partir de ce moment-là, il a fallu les écrire en français. Et la première tentative justement de réunifier la langue a été faite par Mistral. Et c'est pour ça qu'il a fait cette œuvre, le Trésor du Félibrige, parce que justement, il voulait redonner à la langue d'oc cette unité qu'elle avait perdue.
Et on peut dire également, Rémi Salomon, que le deuxième coup dur à la langue d'oc, c'est aussi ce 19e siècle qui, à travers l'école, veut construire la nation et donc unifier, et donc va aussi systématiser l'apprentissage du français, voire interdire l'enseignement, évidemment, et le parler d'oc.
Jules Ferry a créé l'école, certes, mais dès que les gamins sortaient dans la rue, ils reparlaient l'occitan. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'avait été inventé ce système assez ignoble du signal, hein, qu'on punissait toujours l'élève qui avait parlé en occitan, et il devait, dès qu'il entendait quelqu'un d'autre qui parlait, lui donner le signe, et le soir, à la fin de la journée, c'était celui qui avait le signe qui était réprimandé, quoi, voilà. Donc, ce qui a eu effectivement une importance, c'est plutôt la guerre de 14, je dirais, parce qu'il y a eu des grands mouvements de population. Et puis, c'est là qu'on est rentré dans une... Après 14, on est rentré dans une autre ère. Les gens se sont rencontrés. Et c'est là que le français est réellement rentré. Et que la langue a commencé à perdre dans les milieux les plus populaires de sa vitalité. Ensuite, il y avait aussi la volonté de réussite économique qui a fait que beaucoup ont opté pour le français dans un espoir de réussite, je dirais.
Le français, ce qui a fait sa force, c'est qu'il s'est trouvé associé d'abord au pouvoir royal, puis ensuite, après, la République. Mais donc, cette langue a été portée par une modernité d'État. Et donc, ça l'a construite, et ça l'a fait la force et la puissance. L'occitan est une langue faible, au sens où c'est une langue qui n'est pas liée à des... Il n'y a pas de revendications dans la rue énormes, il y a eu des manifestations, quelque chose comme ça, mais c'était aussi un lien avec des manifestations autres, du type Larzac, etc. Mais bon, il n'y a pas de mouvement de libération armée connue, etc., de pas de bombes, pas de choses comme ça. Bon, il n'y a pas non plus d'institutions, de traditions, il n'y a pas de souvenir d'un royaume d'Occitanie récent qui aurait laissé des traces, etc. Bon, mais la langue, elle a donner une production littéraire importante. Et l'Occitan peut s'appuyer là-dessus sur un corpus littéraire riche. Il y a Troubadour, bien entendu, c'est une énorme chose, c'est connu, c'est une contribution à la culture mondiale. Mistral, prix Nobel de littérature, quand même, bon, c'est pas rien, mais effectivement, il a apporté quelque chose en littérature, et c'est une œuvre qu'on peut toujours lire avec un grand intérêt, et il y a encore, à l'époque contemporaine, il y a eu de grands auteurs, on connaît, même quelquefois la presse en parle, il arrive qu'on parle de Boudou, qu'on parle de Mansiette, qu'on parle de Lavouette, qu'on parle de Max Rouquette, qu'on parle de Robert Laffont, donc on parle d'écrivains du XXe siècle, il y en a d'autres encore maintenant, qui pratiquent l'occitan.
L'usage sociologique de l'occitan avait reculé pendant tout le XIXe siècle, et ça a continué au XXe, des hautes classes aux basses classes. En d'autres termes, vers 1800, pratiquement tout le monde dans l'espace occitan a l'occitan comme langue de famille, y compris l'aristocratie, y compris la grande bourgeoisie. Et progressivement, on voit les hautes classes abandonner l'occitan comme langue de la transmission familiale. On peut continuer à connaître l'occitan, parce que si on veut parler à la bonne, il faut quand même être compréhensible. Mais quand on parle aux enfants, là, on parlera français. Il y a un certain nombre d'usages sociaux qui sont maintenant cantonnés aux classes populaires, à la campagne. Bon, ça peut parler de berger, de bergère, ça peut parler de la vie des champs, ça peut parler de raconter des histoires drôles, des fables de La Fontaine, des choses comme ça. Mais on fera jamais du Racine et du Corneille ou du Pascal en patois, quoi. Et donc tout le travail de Mistral et de ses amis, c'est de restituer à l'occitan un registre et donc un vocabulaire et un lexique occitan qui permettent de parler à peu près de tout. Et ça, Mistral le dit dès 1853, hein, dans une lettre à son ami et maître initial Roumanie, il dit « Il nous faut tout ce qu'ont les autres littératures ».
Vous l'avez étudié, vous, Philippe Partel, justement, la composition un petit peu du Félibrige, donc ce mouvement que Mistral fonde environ en 1854.
Alors au début, c'est un groupe de copains qui se retrouvent pour raconter des poèmes et pour boire des coups. C'est très très joyeux. C'est des jeunes, c'est une bande de jeunes, on va dire ça. Et progressivement, se met en place une association extrêmement structurée d'adhérents, disons, quelques centaines, et des sympathisants regroupés dans des associations locales, au total quelques milliers de personnes. Alors quand on essaye de trouver un petit peu qui sont ces gens, on n'y trouve ni les élites. Les paysans, ils sont pas davantage, les ouvriers encore moins. Et au milieu, qu'est-ce que c'est? C'est de la classe moyenne de l'époque. En général, des gens qui sont nés dans les classes populaires, qui ont acquis le français par l'éducation, qui peuvent se permettre, dans tous les sens du terme, y compris financiers, de revenir en quelque sorte sur leurs origines et d'essayer d'établir une sorte de compromis entre la culture dont ils ont issu, et la langue donc qui a été la leur, et cette nouvelle culture qu'ils ont découvert à l'école. Et Mistral, c'est très exactement ça. C'est un fils de paysan, alors paysan relativement riche, qui a l'occitan comme langue maternelle, qui est passé par le lycée, latin, grec, licence en droit, enfin un cursus impeccable, et qui a donc tous les outils qu'on va retrouver dans le trésor du Félibrige, d'ailleurs, qui vont lui permettre d'élaborer à la fois sa création littéraire, parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup ce qui se fait en littérature à ce moment-là, et qui va lui permettre aussi de construire sa langue, de construire son organisation, de construire un petit peu son projet. Alors le problème, bien entendu, c'est que ces fonctionnaires, ces petits notaires, ces petits pharmaciens, ces petits médecins, c'est jamais des gens très très riches, sinon on n'en serait pas où on en est. Dans la France du 19e siècle, ils sont pas encore la majorité. Les classes moyennes sont encore un être. Et ils sont pas non plus la masse, qui est la masse paysanne ouvrière, et ils sont pas non plus les élites. Donc ils se retrouvent dans une position extrêmement délicate, qui est celle d'avoir les ambitions, mais d'en avoir pas les moyens sociaux, finalement, de faire avancer leurs revendications. Alors bon, si vous êtes un garçon comme Alphonse Daudet, ou n'importe qui, mais avec des dents qui fait des trous dans le parquet, et que vous avez envie d'entrer à l'Académie française, c'est clair, faut pas écrire en occitan.
Vous pouvez entrer, non, messieurs, dames, combien vous êtes, là, à peu près ?
Une journée chez Frédéric Mistral, France Culture, 1970.
Nous sommes à Mayanne, maintenant, au musée Frédéric Mistral, en bons touristes que nous sommes. Nous sommes là d'ailleurs avec quelques groupes de touristes.
Maintenant, alors, si vous voulez tirer la porte, si ça vous fait rire. Ça fait rire, oui. Alors nous allons commencer par le commencement. Mistral est né au Mas de Juge le 8 septembre 1830. Il habitait là jusqu'à la mort de son père en 1855. En 76, il avait 46 ans. Il s'est marié avec une fille de Dijon, Mademoiselle Rivière, de 19 ans. Ici, vous avez le bureau où il a écrit toutes ses œuvres. Ici, vous avez une photographie qui représente Alphonse Daudet et Mistral. Ici, vous avez une victoire de Samothrace. Ici, vous avez un portrait de Lamartine. Ici, vous avez Mistral. Et Mistral et sept poètes, ils étaient sept poètes provençaux quand ils ont rénové la langue provençale à Fonsegugne en 1854. Ils ont juré de rénover toute la langue provençale.
À la maison de Provence où réside aujourd'hui le Félibrige à Aix-en-Provence, André Gabriel, majorin du mouvement.
Alors, vous êtes aussi membre du Félibrige, qui est l'association créée par Mistral en 1854.
Alors, tout d'abord, petite correction terminologique, c'est que nous ne sommes pas une association.
Non.
Oui. Moi, je dis une académie. Alors, académie, en ce sens que c'est symétrique à l'Académie française, qui a été le vœu du prince pour former, pour créer, pour figer, en quelque sorte, la langue française. Mistral a fait exactement pareil. Quand vous rentrez dans le Félibrige, normalement, il faudrait, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais enfin, parler quand même, quoi, être intéressé à la chose, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a un positionnement, en quelque sorte. Bon. Et puis, partant de cette population initiale, Mistral a eu l'idée d'avoir une sorte de cénacle au second degré, c'est-à-dire des gens qui sont, on s'appelle des majoraux. Alors, majoraux, c'est marrant parce que quand vous allez dans les Landes, c'est ceux qui sont les plus costauds pour les courses de vachettes. Bon. Alors, quand vous dites dans les Landes, si on majora, vous dites, ah ouais, mais tu es un peu fifi. Bon, c'est comme ça. tout que, bon, voilà. Mais c'est rigolo. Ça, tu aurais pu, ça pourrait marcher, moi, c'est difficile. Bon. Mais donc, majoral, major, c'est-à-dire, bon, la quintessence, si vous voulez. Alors, l'Académie française s'est basée sur le Deutéronome, donc ils sont 40, et 40 immortels sous la coupole. Bon, nous sommes 50. Comme ça, c'est bien. Et alors, c'est exactement pareil. Au lieu d'avoir des fauteuils, vous avez des cigales. Ben, c'est comme un fauteuil d'Académie, hein. C'est exactement pareil. Vous avez le consistoire chez nous. C'est un peu comme quand vous avez, bon, bien sûr, les réunions des cardinaux, c'est le concile, c'est exactement le même principe. Là-dessus, on va choisir le pape. Bon, la différence, c'est que le pape va être, jusqu'à son décès, nous, le Capoulier, réélu tous les 4 ans. Par contre, les majoraux, ils sont jusqu'à leur décès. Alors après, ça fait un peu vieillot et décalé. C'est vrai qu'on n'est plus dans cet esprit académicien, mais je veux dire, l'Académie française, c'est exactement le même principe. C'est une hiérarchie beaucoup plus honorifique et militante aujourd'hui que ce qu'elle était autrefois. C'est un pouvoir qui est un pouvoir plutôt à la fois incitatoire, culturel, qui est quelque chose qui est une sorte d'autorité morale. Bon, c'est une institution qui est un peu comme le gardien d'un certain temple. Ce temple n'est pas vide, et après c'est à nous, à chacun de nous, avec nos convictions, de le remplir et de le faire évoluer.
Johann Frédéric Brun, écrivain.
C'est vrai que j'ai fait aussi mes premiers pas, comme beaucoup de gens, dans le Philibrige. Alors, il y avait une différence d'âge, parce que j'étais rien qu'avec des messieurs et des dames qui avaient 70 ans, et moi j'avais 14-15 ans, et donc j'ai fait aller faire le pèlerinage sur la tombe de Frédéric Mistral et autres. Alors, bien sûr, ça m'a fait aussi un bain de langue au départ. Puis après, j'ai rencontré les occitanistes, des gens comme Max Rouquette et autres, qui étaient une génération qui a été en rupture avec le Félibrige, qui a voulu développer une culture en pleine modernité, un peu comme ce qui se faisait en Catalogne. Mais bien sûr, je garde une affection filiale pour le Félibrige et pour Frédéric Mistral. Je suis né en 1956, donc dans les années 60, il y avait beaucoup de gens qui le parlaient. Puis j'ai découvert, grâce à mon père, qui était un homme de grande culture, que c'était une langue de littérature et de culture. Il m'a fait lire les poètes provençaux, il m'a fait lire les troubadours du XIIe siècle. Je me suis dit, il te faut faire la reconquête de ce bien qui est à toi. L'occitan me permet de me désinhiber complètement pour parler de mes émotions, des couleurs, des... Il est vrai que la culture doc en France est assez minorisée, fait l'objet quand même de la part de beaucoup de gens d'un regard condescendant, parce qu'on dit ouais c'est le patois, c'est la langue pour parler aux bêtes et tout. Bon, moi j'ai pas vraiment baigné dans ce complexe, mais on le voit réapparaître souvent. J'étais dans le monde de Camarguais un petit peu, où la langue d'oc, au contraire, prenait une dimension mythique grâce aux poésies de Joseph Darbaud ou du marquis de Baroncelli, donc dans le milieu des gardiens. C'est que la langue d'oc, c'est presque une langue liturgique, comme le culte du taureau, c'est presque une religion. Dans mon enfance, la langue d'oc, après, c'était quelque chose d'un peu initiatique. Ça fonctionnait dans des petits cercles. Donc quand j'allais à la chasse avec mon grand-père, c'était l'ambiance, le rendez-vous de chasse, la garrigue avec les oiseaux. Et les chasseurs parlaient entre eux en occitan. Et également, après, j'ai eu la chance donc d'être rentré dans le milieu camarguais. C'était à cette époque-là, donc dans les années 70, la langue que parlaient les hommes de métier, les manadiers, les gardiens, ils parlaient en occitan. Alors, de rentrer là-dedans et de parler aussi cette langue, c'était en même temps de rentrer dans une société. Les gens qui venaient, qui étaient en dehors de ces cénacles, avaient presque l'impression qu'elle n'existait pas. Alors qu'elle fonctionnait intensément dans ces petits cercles. C'est vrai qu'on a l'impression, nous, quand on pratique notre langue, qu'on rentre dans un univers magique, un peu, dans un univers où on résonne autrement. C'est une espèce de. C'est un voyage.
Est-ce qu'on comprend bien, Philippe Martel, que Frédéric Mistral, son idée, quand même, c'est de remettre la langue d'oc à un niveau. Pour qu'elle soit reconnue d'un point de vue national. Et d'ailleurs, elle le sera, pas par tout le monde, un petit peu. Ça sera finalement un échec. Mais...
Ça pose un problème, bien entendu, et ça va être un petit peu le problème du Félibrige et de la Renaissance d'oc dans son ensemble. C'est que du même coup, ça le mettra en déphasage par rapport à la société telle qu'elle est. En d'autres termes, il essaye de viser un public qui est le public lettré, des élites, des classes supérieures, et c'est pour ça qu'il monte à Paris. Si on essaye d'avoir des lecteurs en province, ça viendra pas parce que ils sont nuls. En Provence, ils viennent de découvrir le romantisme en 1835 à peu près, quoi. Donc, ils ont 3 métros de retard. Et donc, le seul moyen, c'est de monter à Paris, Une fois qu'on s'est fait reconnaître à Paris, et à partir du moment où les élites provinciales ont trouvé que c'est génial, pense Mistral et espère Mistral, ben le peuple suivra. Alors du coup, le problème, c'est que les élites vont être extrêmement réticentes face à ce fils de paysan qui débarque à Paris avec un poème en patois. Bon, alors, c'est pittoresque, c'est joli, c'est charmant, c'est rustique, mais enfin, c'est quand même du patois.
C'est Mireille.
Mireille, en 1859.
Bah, 1859, Mireille.
C'est exotique parce que ça se passe à 700 km de Paris et que le train commence juste à y arriver. Bon, ceci dit, il est pas au niveau, Mistral. Hein. C'est un fils de paysan qui rencontre Alfred de Vigny, Alphonse de Lamartine, un certain nombre, Barbey d'Aurevilly, un certain nombre de gens comme ça, qui ont un autre capital culturel et un autre capital social et un autre capital tout court que lui. La France ne reconnaîtra jamais véritablement l'existence d'une littérature doc qui soit finalement accessible à un lecteur cultivé, non. Mais inversement, Mistral se retrouve confronté à des classes populaires dont l'occitan est la langue quotidienne, mais qui ne sont pas en état de se payer un bouquin qui coûte quand même 5 francs 60, ce qui veut dire à peu près 3 jours de salaire d'un ouvrier agricole en Provence dans les années 1850, puis qui n'ont pas envie de se farcir la lecture de 12 chants avec des octosyllabes, des alexandrins, des choses comme ça.
Parce qu'en fait, bon, c'est aussi un outil particulier, le dictionnaire. Enfin, c'est à qui s'adresse-t-il ? Enfin, dans ce contexte aussi du 19e siècle, hein, où finalement, beaucoup sont analphabètes.
Ça dépend que c'était cher.
Mais oui,
non, alors, le dictionnaire, c'est explicitement, Mistral, il s'adresse, c'est le trésor du Félibrige. Et qu'est-ce que le Félibrige ? C'est l'ensemble des Félibres, qui sont les poètes de Languedoc. Donc, ils ont voulu inventer un nouveau mot pour désigner les poètes et les écrivains, parce qu'ils estimaient qu'il y a eu un temps des troubadours, au Moyen-Âge. Et donc, le Mistral a voulu, il a inventé un mot, qui est le mot Félibre, et pour donner à un mouvement littéraire un drapeau, quoi, disons. Et délibérément, le trésor du Félibrige va permettre aux écrivains d'écrire...
D'une élite, alors, d'une certaine manière.
D'une élite, des gens qui doivent savoir écrire. Des gens. Bon, Mistral fait cela. Et il veut aider aussi les autres Félibres à le faire.
Et quand vous voulez avoir tout ce qu'ont les autres littératures, ben vous y mettez le prix. C'est-à-dire que vous travaillez sur la langue. Alors, est-ce que vous fabriquez la langue ? C'est ce qu'on lui a reproché, bien entendu. Hein. Dès les années 50, on a dit, bon, Mistral a fait une langue factice. Il a fait une espèce de volapük ou d'espéranto. Il a pris un morceau de langue d'ossien, un morceau de troubadour, un morceau de Dieu sait quoi, du catalan, et il en a fait une espèce de soupe que personne ne parle nulle part. C'est pas si simple que ça. Hein. Mistral n'a pas... tellement modifié la langue, il s'est contenté, je dirais, de la nettoyer un petit peu et surtout d'essayer de lui rendre un dynamisme qu'elle était en train de perdre.
Cantas, cantas, mañanarello, que la colide escantarello, galant son imanian, et s'endort mon ditresse. Les amouris sont pleins de filles que l'ouverture escarabille, comme un vol des blondes habilles que raubon s'améli qui roumanine de Grèce. En desfeuillant vos hiverguelles, cantas, cantas, mañanarello. Mireille est à la fureur, un beau matin des mailles. À qui au matin, père Pendelote, à ses amouris, à la farote, avait pendu dos à griotte.
Cette optique, Patrick Sauzet, de entre guillemets d'unification de la langue, parce que quand même le trésor du Félibrige, j'avais quand même un peu cette idée d'unification, même si on proposait différents dialectes, il fallait bien que toutes ces personnes qui parleraient l'occitan bah, puissent parler la même langue, et aussi la question de la graphie, c'est-à-dire lire la même langue, l'écrire.
Donc effectivement, bon, ce que Mistral fait, il n'unifie pas la langue, mais il articule, disons, la langue sur un standard. Et alors, et ça, c'est tout le problème de l'occitan, c'est le problème de beaucoup de langues. Effectivement, toute langue qui a un problème de statut, a un problème de standardisation. Est-ce qu'il faut une forme de référence, laquelle, quel est son statut exact? Pour l'occitan, c'est très compliqué, effectivement, parce que, il y a une assez grande diversification et il n'y a pas, par exemple, souvent le standard vient d'un pouvoir politique, c'est très c'est simple, il y a une tradition, la langue du roi, ma foi, c'est simple, du coup. Alors, il n'y a pas de roi occitan.
Alors, c'est donc une langue, unifiée dans sa graphie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est unifiée dans ses réalisations parlées, bien entendu. Enfin, je pense que, mais c'est dans la graphie qu'ils ont voulu faire voir l'unité de la langue, donc une graphie unique qui peut être adaptée malgré tout aux différents dialectes. C'est vraiment deux conceptions de la langue qui s'affrontent, mais deux conceptions de la langue qui sont complémentaires finalement. La graphie mistralienne insiste plus sur la diversité de la langue. Donc chaque dialecte est caractérisé, le provençal, le gascon, le languedocien, le limousin, l'auvergnat, bon, les parlers du nord. Donc la graphie mistralienne insiste beaucoup plus sur la diversité de la langue, et la graphie classique insiste beaucoup plus sur l'unité de la langue.
Le compromis des Mistral a été de dire on va utiliser un système d'écriture plutôt à tendance phonétique, donc plutôt proche des prononciations.
Philippe Blanchet, sociolinguiste.
Philippe Blanchet, linguiste.
C'est pour ça que quand vous prenez une entrée dans le trésor du Félibrige, vous avez 2, 3, jusqu'à 10, 12 formes graphiques différentes parce qu'il écrit l'orthographie des prononciations différentes. Là où on dit « wa », il écrit « wa », là où on dit « we », il écrit « we », etc. Et en même temps, en utilisant un système d'écriture qui ne déroute pas les gens qui ont été alphabétisés en français ou dans une autre langue romane, comme par exemple en espagnol ou en italien. Mais le gros avantage de son système, ce qui fait que dans certaines régions, notamment en Provence, il est resté très massivement utilisé, c'est que quand les gens voient leur langue écrite comme ça, ils la reconnaissent tout de suite. Un Provençal qui voit écrit sur le nom d'une maison ou dans un journal « A cause Monustau, c'est ma maison », il reconnaît tout de suite du Provençal, il est capable de le prononcer tout de suite.
La question de la graphie, précisément, ça a été un des points de conflit particulièrement dramatique dans l'histoire de la Renaissance d'Oc depuis 2 siècles, parce que s'y mêle d'abord l'image que l'on se fait de la langue. Si vous utilisez les principes de la graphie française, de l'orthographe française pour noter l'occitan, ça veut dire que quelque part, vous considérez que la seule voie possible pour écrire l'occitan, c'est d'emprunter finalement son costume à la langue officielle qui est le français. Au contraire, si vous considérez que l'histoire de l'occitan commence avant que le français débarque dans les provinces méridionales, vous considérez à ce moment-là qu'il faut établir finalement continuité dans l'histoire de la langue entre la façon dont elle s'écrivait au temps glorieux, parce qu'il y a aussi un mythe des origines, hein, le temps glorieux des troubadours, nos ancêtres, etc. Donc il faut essayer au maximum de retrouver la façon dont nos ancêtres avaient commencé à écrire l'occitan, et ensuite donc on la remet au goût du jour, dans la mesure où ce que l'on essaye de faire depuis le 19e siècle, c'est de rendre à l'occitan le statut de grande langue littéraire qui avait été le sien au Moyen-Âge.
Je crois que le 19e siècle a été globalement une époque où on a investi l'art et la littérature de pouvoirs immenses. Et c'est pas, dans d'autres domaines, ça s'est fait. Et donc il a pensé que la littérature allait sauver la langue et entraîner derrière elle une prise de conscience. Et bon, cela n'a pas suffi, parce qu'effectivement, le Félibrige a été une réussite littéraire et associative. Il n'a pas eu de grandes conséquences, effectivement, politiques. Il faut dire aussi que la France est un pays où il est difficile de faire entendre une diversité sans passer tout de suite pour éventuellement un séparatiste, etc., séparatiste, même régionaliste, etc. Donc, c'était très difficile de faire émerger un discours de diversité dans une république qui se veut une et indivisible, etc.
La question du rapport au régionalisme est extrêmement compliquée. Le régionalisme, ça peut être aussi bien les groupes folkloriques en costume. En général, c'est le fils du pharmacien et la fille du notaire qui se déguisent en paysans du 19e siècle et qui dansent. Bon, ça peut être des reconstitutions de vieilles provinces ou alors, au contraire, la construction de régions technocratiques. Je veux dire, la quantité de plans de redécoupage régional de la France depuis les années 1880, il y en a des camions entiers, quoi. Puis ça peut être une idéologie qui est effectivement l'idéologie qui a été reprise par Vichy, qui est celle de la terre qui ne ment pas, du terroir et tout ça. Alors, là-dedans, Mistral, politiquement, Mistral, j'ai renoncé à comprendre Mistral. Et je crois que lui-même ne se comprenait pas. En gros, Mistral, il est militant d'un groupuscule gauchiste quand il est étudiant à Aix en 1848. Il est bonapartiste en 1869, c'est-à-dire au moment où l'Empire va s'effondrer. Il est monarchiste dans les années 70, au moment où le monarchisme va perdre définitivement la partie. Il sera boulangiste en 89 et ça donne rien. Il sera anti-Dreyfusard en 99 et puis après, il s'arrangera pour que personne ne le sache. En gros, Mistral, question politique, il faisait des choix assez souvent inappropriés. Alors Maurras, lorsque Maurras est né en 1868, Mistral avait déjà 38 ans. Hein. Donc pour faire de Mistral un disciple de Maurras, c'est un peu compliqué. Par contre, Maurras s'est toujours référé à Mistral qui était un de ses, j'allais dire, premiers pères spirituels, avec Barrès, avec Fustel de Coulanges, avec un certain nombre de gens comme ça. Et donc, Maurras a fait un petit peu un fonds de commerce de ces références mistraliennes. C'est assez extraordinaire de voir que dans l'Action française, en 1942-43, l'éditorial quotidien de Maurras, pratiquement deux ou trois fois par semaine, raconte des souvenirs sur Mistral. Maurras, moi et Mistral, en gros.
Et maintenant, vous parlez
peu.
Une phrase.
Une phrase. J'ai jamais l'occasion de parler le provençal. Parce que dans la carrière, dans les magazines, se parle pas le provençal. Voilà.
Il a manqué au Félibrige, et pendant très longtemps à l'occitanisme, à sa suite, une politique de l'entrisme. Bon, on est des écrivains qui écrivent en occitan, oui, bon. Alors, est-ce que l'on peut aller là où sont les gens ? Dans ce cas-là, ça veut dire que on monte à Paris, bien entendu, mais on y reste. Une fois que Mistral est à Mayanne, plus personne n'entend parler de lui. Dans la presse parisienne, on parle de lui quand il est à Paris. Et tous ses amis sont pareils. Ils sont jamais là où il faut être, finalement, d'une certaine manière. Et alors, faut pas leur jeter la pierre, ils peuvent pas non plus. Hein. Donc, ils sont pas élus à la Chambre, et quand ils sont élus députés, ils parlent d'autre chose. Il y en a des députés faits libres, hein. Il y en a même qui ont une très belle œuvre occitane à leur actif, mais quand ils sont députés, ils parlent d'autre chose. Tout simplement parce que s'ils parlent du Félibrige et de l'Occitan, personne ne les écoute, ils se font jeter par leurs collègues. Donc, ils ne font pas non plus d'entrisme dans le milieu de la linguistique, dans le milieu universitaire. Et ils ne font pas non plus d'entrisme dans les classes populaires. Et ça, c'est la grosse différence avec leurs copains catalans, par exemple. Les catalans, ils le font, ça. Le mouvement catalan, qui est un mouvement bourgeois. Et alors, bourgeois avec de l'argent. Là c'est des gens sérieux, les Catalans. Les Catalans, ils ont senti qu'il fallait trouver le contact avec les masses populaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent des espèces de chorales ouvrières. Ils montent des associations d'excursionnistes où on se promène dans la jolie garrigue barcelonaise, mais avec un guide en catalan qui explique les petites fleurs et les petits oiseaux en catalan. Bref, on va chercher les gens où ils sont. Le fait libre, l'occitaniste à sa suite, c'est un monsieur qui est passé par l'école française, mais qui a quelque part dans son arrière-plan mental la langue du pays, et qui à un certain moment essaye justement de faire ce mariage entre sa nouvelle culture et son ancienne culture. Et pire encore, lorsque les gens rencontrent ces messieurs du Félibrige, on a les photos là-dessus, hein, c'est redingote et chapeau Panama. Oui, bon, ben voilà, par rapport aux paysans de base ou à l'ouvrier de base, ces gens, même s'ils prétendent parler encore la langue du peuple, ils n'ont plus le peuple. Et donc, les gens sentent très très bien cette distance sociologique. Et ça, les faits libres n'ont pas véritablement su trouver les chemins qui permettaient d'avoir des avant-postes ou des têtes de pont dans les deux mondes entre lesquels ils étaient finalement. Le monde des élites, le monde de la culture, le monde de la science et les classes populaires.
Monsieur Fernandel, ma première question sera pour vous demander si vous parlez le provençal.
50e anniversaire de la mort de Frédéric Mistral. Fernandel pour France Inter, en mars 1964.
C'est-à-dire, oui, je parle le provençal, étant donné que je suis né à Marseille et que j'ai eu une grand-mère maternelle qui ne m'a parlé que le provençal pendant toute ma jeunesse. Obligatoirement, quand on est enfant, vous savez, c'est comme ça qu'on apprend les langues. Maintenant, je l'ai un peu perdu parce qu'avec la nouvelle génération, on ne parle plus le provençal à Marseille. Alors je le comprends très bien, mais je me permettrai pas tout de même de dire quelque chose en provençal, car à part des phrases clés que l'on connaît et que l'on dit toujours à Marseille, on a un peu oublié cette langue épatante de Mistral.
Vous est-il arrivé d'interpréter ou d'enregistrer des textes de Mistral ?
Non, jamais, et je vais vous en donner la raison. Mistral a tout écrit en provençal, or ça a été traduit en français, et naturellement ça perd beaucoup de son charme. Et le dire en provençal pour des gens qui ne le comprennent pas, ça en perdrait aussi beaucoup.
Je voudrais pour terminer vous demander si vous vous souvenez, si au fond de votre mémoire se trouvent encore quelques vers de Mistral.
Oui, j'en ai un là, qui me rappelle un livre qu'il avait écrit, et qui s'appelait « Mémoire et récits, mes origines », qui avait traduit du provençal. Et il y avait un quatrain, ou pas un quatrain, plutôt quelques phrases qui étaient admirables en provençal, qui perdent un peu en français, mais enfin je vais vous les dire quand même. Oh, vers les plaines du froment, laissez-moi me perdre pensif. Dans les grands blés pleins de ponceaux ou petits gars, je me perdais. Quelqu'un me cherche de touffe en touffe en récitant son angélus. et chantant les alouettes, moi je les suis dans le soleil. Ah, pauvre mère, beau cœur aimant, je ne t'entendrai plus criant mon nom. C'est tiré des îles d'or.
Du coup, on en arrive à cette question de fond, comment on définit une langue ? D'un point de vue sociolinguistique, et la plupart des sociolinguistes sont d'accord là-dessus, on définit une langue distincte d'une autre, parce que c'est ça l'essentiel. Hein. Par exemple, comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le provençal et l'occitan de la région toulousaine ou le bernais sont des langues distinctes ? Et donc, le critère fondamental, c'est comment les gens la considèrent, comment les gens la nomment, comment les gens s'en servent. Ils la considèrent comme une langue distincte des autres. En Provence, on dit provençal. Au Béarn, on dit béarnais. Il n'y a pas de nom commun pour l'ensemble des langues du Midi de la France, bien que certains aient inventé occitan, mais c'est un nom qui est très peu utilisé. C'est un nom d'intellectuel, ça. Et les gens ne les pratiquent qu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, toutes les études sociolinguistiques montrent que ça viendrait à l'idée, quasiment, sauf si on tombe sur un militant, mais un usager spontané, ordinaire du provençal du Haut-Var, qui rencontrerait un Auvergnat, un Toulousain ou un Béarnais, ça lui viendrait pas à l'idée du tout de lui parler en provençal, il lui parlera en français. Pour lui, le provençal, c'est pour parler avec les gens de son coin. Alors, on peut le regretter, évidemment, et j'entends bien que les militants d'une unité linguistique essayent justement de réunir tout ça pour donner du poids, de la force, etc. Mais moi, mon travail de sociolinguiste, c'est d'abord de constater comment ça marche. Et je me dis que même si on élabore aujourd'hui une action de promotion de ces langues, il faut d'abord s'appuyer sur comment les gens la vivent et qu'est-ce qu'ils en veulent, et peut-être que dans une phase ultérieure, on pourrait envisager de les rapprocher et pourquoi pas de les unir, mais en tout cas pour l'instant c'est clair, la dynamique est totalement inverse, on est dans une dynamique de renforcement de la diversification de ces langues.
André Gabriel, ça signifie que vous ne vous prononcez pas forcément sur la question justement de la langue, dialecte, langue, justement le provençal, enfin bon, qui est une des polémiques, entre autres, hein. Est-ce que c'est votre fonction ? Vous êtes une académie.
Alors, nous avons, j'aime bien la langue de bois, j'aime bien. Nous avons une ligne de conduite. Ça, voilà, ça c'est la ligne de conduite officielle. Bon, c'est que je ne vois pas la différence qu'il y a entre le français et la langue française sur un plan sémantique. Moi, je vois pas la différence. Donc, la langue d'oc ou l'occitan, pour moi, c'est pareil.
Mais est-ce que dialecte ou langue ?
Ah mais alors un dialecte c'est différent, la langue c'est quelque chose qui est beaucoup plus général, le dialecte est quelque chose qui est beaucoup plus circonstancié, donc moi j'appelle pas ça forcément des dialectes mais des variantes dialectales. Bon, mais d'Aix à Marseille ça change de toute façon, alors ben c'est un peu de Marseille à Périgueux, bon, voilà. On se comprend évidemment, sauf que ici à Aix, les gens sérieux quand vous dites une chemise, ils vont dire la camise. Bon, nous à Marseille, on dit la camier, mais ça va, on a compris. Je veux dire, ça va, on n'est pas mort sur le coup. C'est là où ça devient compliqué, c'est quand vous rentrez, par exemple, dans le Béarn, quand vous rentrez dans le Champsaurin, sur les Alpes, où là vous avez une prononciation. Alors là, il faut être habitué. Bon, mais même moi, j'ai appris le provençal moi avec ma grand-mère, qui n'était pas du tout d'ici parce qu'elle était du Var, donc plus ville, bout du monde. Et les paysans du Rove, c'est très étonnant de voir comment, par exemple, comment on dit la machote en français ?
La chouette.
Alors, nous on dit la chouette, bon, en français. Alors, Mistral dit la machote, bon, la machote, et les voisins que j'avais, Marie Ouiran, disaient la machouette. La machouette. Bon, allez l'écrire. Bon, vous écrivez machoto, et puis après, vous le dites en fonction, je veux dire, voilà. Sémantiquement, c'est pareil. Après, ce sont des questions d'accent. Aujourd'hui, nous avons des dictionnaires et nous avons des outils en français et en anglais tout à fait extraordinaires. Si vous allez dans les fêtes populaires, au moment des Santaloy ou au moment des carnavals, vous serez étonné de la façon dont les jeunes parlent. Vous voyez pas forcément de quoi il s'agit, pourtant ils parlent français, quoi, vous voyez, et ils ont fait l'école quand même. Bon, donc il y a quand même un glissement. Donc bon, là, il faut accepter la souplesse linguistique. Bon, mais dans les dictionnaires de l'Académie française, quand même, vous apercevez que dans une même édition, 1810 notamment, celle à laquelle je fais référence, ben, le même mot, quand vous le voyez écrit 30 pages plus loin, il n'a pas la même orthographe. Oh, c'est l'Académie française quand même. Bon, donc il y a quand même une souplesse. Alors aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est que vous avez cette notion de faute. Mais il n'y a pas de faute. La langue, elle est faite pour être belle. Bon, elle est faite pour surtout traduire votre pensée. C'est un outil. Donc l'idée, c'est que après, quand vous rentrez dans les études universitaires, bon, que vous ayez conscience des doubles choses, c'est tout à fait normal. Mais dire que le provençal est une langue, ça nous fait plaisir. Mais linguistiquement, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas...
Non, je suis d'accord avec toi sur la langue entièrement. Oui, hein. Oui,
oui. Ce que je veux, c'est qu'on sorte, comme tu l'as bien dit, de la querelle. Quoi. Mmh. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a une déformation française, un peuple, une langue, une façon d'écrire, et tout ce qui sort de là, c'est la faute, c'est l'erreur, c'est le défaut. Voilà. D'ailleurs, à ces mêmes puristes, si tu leur disais que finalement, on devrait sortir le québécois de la francophonie, parce que quand tu les entends parler, ben, t'es pas sûr de les comprendre, quoi. Ouais, ce seraient les premiers à hurler et à te dire, mais non, voyons.
Lève la main, jette le son. Écoute ça, spécial dédicace pour tous les patois laser dans la danse, pour les occitans man styling.
Il a été découvert, il avait déjà 70 ans, parce qu'il a été bon. Et ensuite, comme tu dis, c'est pas la langue qui est belle. C'est pas une langue qui doit être belle. Ce sont les choses que l'on fait avec qui doivent être belles. C'est parce qu'on est en train de chercher, enfin beaucoup sont en train de chercher la reconnaissance dans l'identification.
Merci à Philippe Blanchet, Jean-Claude Bouvier, Jean-Frédéric Brun, Mireille Combe, André Gabriel, Philippe Martel, Rémi Salamon et Patrick Sauzet.
Non, on aurait eu Dante qui aurait écrit.
On aurait eu.
Archivina, Aurélie Marsay et Isabelle Fort-Rendu. Lecture, Armand Meff. Mixage, Michel Mestre. Le trésor du Félibrige, le dictionnaire des divers dialectes de la langue d'oc moderne de Frédéric Mistral, un documentaire de Séverine Yattar et Véronique Samouilov.
Bien sûr, vous pouvez podcaster ou réécouter ce documentaire sur notre site. Demain, Céline Develay retracera l'histoire du rêve né d'une impatience enfantine, celui du Polaroid.